Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
L'info et le sport de ce dimanche, d'abord les trois grands titres.
Faire un effort, c'est en substance l'appel d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la réforme des retraites. Et en Iran, les autorités prêtes à revoir la loi sur le port obligatoire du voile. Analyse de cette annonce dans ce journal.
Ne pas penser aux fantômes de la dernière élimination en 8e à l'Euro, se servir de cet échec pour passer l'obstacle polonais. Les Bleus sont en alerte pour rallier les quarts de finale du Mondial.
La matinale week-end.
Emmanuel Macron compte bien reprendre la main après un entretien chez nos confrères de TF1 hier midi. C'est dans les colonnes du Parisien qu'il s'exprime ce matin.
Quatre pages d'entretien, immigration, retraite, énergie, guerre en Ukraine, crise économique. Le président passe en revue bon nombre de sujets et entend bien se mettre en première ligne sur chaque sujet d'actualité. Cyprien Pézeril.
Après de nombreux déplacements à l'étranger qui l'ont tenu éloigné de la France, Emmanuel Macron veut occuper le terrain, défendre son action et celle de son gouvernement avec deux interviews consécutives près de 8 mois après sa réélection sur les sujets brûlants, le risque de coupure d'électricité, pas de panique, on va passer l'hiver, dit-il, appelant chacun à consommer moins. Puis il enchaîne la réforme des retraites présentée dans moins de 15 jours avec un report de l'âge légal à 65 ans. Personne ne se réjouit de travailler un peu plus, mais il faudra faire un effort, prévient-il, insistant sur la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité. Le chef de l'État, qui poursuit sa revue des sujets du moment, réintégrer les soignants non vaccinés, en substance, n'est pas raisonnable à l'heure du retour du Covid. L'immigration, débattue à l'Assemblée après-demain, c'est dans l'ADN de la France, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, dit-il encore. Enfin, il cible Marine Le Pen sur la guerre en Ukraine. C'est l'ami de la Russie. Avant d'appuyer, depuis le début, elle a un discours de capitulation.
Emmanuel Macron, qui, c'est vrai, est revenu sur la réforme des retraites et surtout sur le report de l'âge légal à 65 ans.
Travailler plus longtemps est le seul levier. Voilà ce qu'affirme le chef de l'État. Une déclaration faite avant la fin des concertations avec les partenaires sociaux. Une intersyndicale se réunit d'ailleurs demain pour organiser une réponse, voire la riposte à ce projet de réforme des retraites. Gérard Mardinet est le secrétaire général de la CFE-CGC.
Cette concertation n'est pas sincère, vu qu'on n'a pas fini de traiter le point de l'équilibre des régimes, qu'on a déjà des déclarations qui sont faites publiquement sur des bases fausses, parce que les chiffres qui sont donnés sont basés sur des hypothèses tout à fait contestables. On est dans un contexte où le gouvernement n'écoute personne, avec des éléments de langage présentés comme étant de bon sens. C'est totalement intolérable et je pense que l'intersyndicale en prendra acte et décidera d'actions assez fortes.
Punir les trafiquants de tabac comme ceux de stupéfiants, voilà la volonté de l'exécutif. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, va dévoiler demain un plan anti-trafic de tabac. Objectif pour les autorités, visé à adapter la riposte douanière en proportion à ce commerce illicite, puisque depuis le début de l'année, ce sont plus de 600 tonnes de contrebande de tabac qui ont été saisies.
Et c'est sur RMC et BFM TV, Gabriel Attal dévoilera ce plan et le détaillera face à Apolline de Malherbe, 8h30 demain matin. En attendant, direction l'Iran avec cette question. Est-ce que les autorités ont réellement entendu les demandes des manifestants?
Le pays qui est traversé depuis plusieurs semaines par un mouvement de contestation contre le port obligatoire du voile notamment. Eh bien hier, le régime a demandé au Parlement de revoir cette loi qui existe depuis 1983. Analyse de Clément Terme, historien des relations internationales et professeur à Sciences Po Paris.
Le régime essaye de diviser les manifestants en deux catégories. Ceux qui manifestent leur désapprobation tout en étant fidèles à la République islamique et ceux qui sont considérés comme voulant le changement de régime. Donc, cette initiative, cette annonce publique est aussi un moyen pour créer de la confusion sur la possibilité d'une réforme à l'intérieur du système de la République islamique. Mais ce stratagème finalement ne fonctionne plus puisque la nouvelle génération et la majorité de la population souhaitent aujourd'hui le changement de régime.
RMC 6h04.
Le journal de la Coupe du Monde.
Antoine Martin, c'est donc le jour J, France-Pologne. Les Bleus doivent aller de l'avant après le raté de l'Euro 2021.
Ah, c'était déjà un huitième de finale, mais aussi, mais pas dans une Coupe du Monde, dans un championnat d'Europe face à une équipe inférieure sur le papier, comme la Pologne tout à l'heure. Ce France-Suisse achevé sur le score de 3 partout, puis le raté de Mbappé au tir au but. Cette élimination précoce est un mauvais souvenir. Nicolas Pelletier, les Français avaient terminé premier de leur groupe, grand favori aussi à l'époque.
Antoine Griezmann, l'attaquant des Bleus, se remémore cette élimination surprise face à la Suisse.
Je pense qu'on était un peu trop relâchés contre la Suisse. 3-1, on a cru que c'était plié.
Il ne faut d'ailleurs pas évoquer ce traumatisme avec le sélectionneur Didier Deschamps.
Parler du passé, en plus d'un passé aussi positif que celui-là, je vois pas l'intérêt.
Hugo Lloris est moins catégorique à ce sujet. Le capitaine des Bleus veut se servir de ce mauvais souvenir pour éviter de tomber dans la suffisance face aux Polonais.
Je crois qu'on en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi l'Euro. Et c'est un élément qui peut rentrer en compte. C'est sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher. Et lorsqu'on a l'opportunité, il faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
Sur le papier, la Pologne paraît largement abordable pour cette équipe de France. Mais le spectre de l'échec suisse pourrait rapidement revenir dans toutes les têtes si les Polonais poussent les Bleus au tir au but ce soir.
Il faudra un immense Hugo Lloris dans les cages en cas de séance fatidique. Le capitaine des Tricolores va fêter sa 142e sélection et égaler le record de Lilian Thuram.
C'est pas rien, et je suis très honoré de ces chiffres, très fier. Même si à l'aube d'un huitième de finale de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. À mes yeux, voilà, cette compétition passe avant tout. Et j'ai envie de garder tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain. C'est quelque chose certainement que j'apprécierai davantage une fois la compétition terminée.
France-Pologne, l'avant-match dès 15h dans l'intégrale Coupe du Monde. Jean-Louis Touromanette, Jeannot Rességuier aux commentaires. Soyez au rendez-vous, on y sera pour nos Bleus. Hier, deux équipes ont obtenu leur billet pour les quarts de finale. Logique respectée, les Pays-Bas ont battu les États-Unis 3-1. L'Argentine s'impose 2-1 face à l'Australie pour le millième match de Messi en carrière. Évidemment, buteur. Il fait partie des meilleurs buteurs du mondial avec Mbappé et 3 réalisations. Pays-Bas, Argentine, remake de la demi-finale de 2014. C'est la première affiche connue de ces quarts de finale. Ce sera vendredi à 20h.
Inquiétude qui résonne jusque dans les rues de Doha au sujet du roi Pelé. La santé de la légende brésilienne se détériore un peu plus.
Des informations très inquiétantes. Le Brésilien aurait été placé en soins palliatifs. Déjà admis mardi à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, son corps ne répondrait plus à la chimiothérapie. Le Brésil prie, retient son souffle. C'est le plus grand athlète de l'histoire du pays. Le meilleur footballeur de tous les temps. Le seul joueur vainqueur de 3 Coupes du Monde. Buteur à 17 ans en finale en 1958 face à la Suède. À Doha, Martin Bourdin a rencontré des supporters de la Seleção. Ils sont nombreux au Qatar.
Sur le maillot jaune du Brésil, tout neuf, de Vitor, au-dessus du numéro 10, c'est le nom de Pelé qui est floqué. Alors forcément,
c'est difficile de se concentrer sur la compétition avec cette situation.
Régulièrement, lui, comme d'autres, sortent leur téléphone de leur poche pour scruter les réseaux sociaux, tenter d'avoir des nouvelles.
Je ne suis pas sûr qu'on sache tout de son état de santé réel. Tout le pays prie pour lui.
Des prières et des mots pas toujours faciles à trouver.
C'est vraiment difficile à voir. On l'adore.
Alors quand Bruno parle de l'état de santé de son idole, il a les larmes aux yeux.
Quand j'en parle, j'ai des frissons. Quand j'ai vu qu'il allait en soins palliatifs, j'étais vraiment triste. J'ai beaucoup pleuré. On verra ce qui se passe. C'est dans les mains de Dieu maintenant.
Hier soir, des hommages ont été rendus à Pelé à Doha via un spectacle de drones ou des portraits affichés sur les tours de la ville. Ça a beaucoup touché Marcelo.
C'est génial de voir que tout le monde, pas juste nous les Brésiliens, mais que tous les amoureux de sport lui souhaitent le meilleur.
Pour tous, l'état de santé de Pelé est une raison de plus pour pousser très fort derrière la Seleção, ne serait-ce qu'en hommage à leur légende, souffle certains.
Et tard dans la soirée, un message d'espoir sur le compte Instagram du roi Pelé, certainement publié par son équipe de communication. Je veux que tout le monde reste calme et positif, je me sens fort, plein d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude. Fin de citation.
Merci beaucoup Antoine Martin. Toutes les infos, Coupe du Monde, bien sûr, c'est sur RMC. Et en particulier ce huitième de finale qu'on va suivre avec attention. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs, vos pronostics, n'hésitez pas. Peggy, on a déjà quelques messages à ce sujet.
Il y a Pierre qui dit que ça va être dur pour la France. Quand elle a une équipe un peu plus faible, ben, moi je trouve qu'il joue beaucoup moins bien. En tout cas pour moi, match nul et ça finira au pénalty, victoire de la Pologne. C'est précis tout ça. Émilie, elle nous dit « Coucou, ravie de pouvoir vous écouter, bon dimanche, allez les Bleus, pronostic 3-0 pour la France. »
3-0,
ouais.
Pas mal. Et victoire de la Pologne pour Pierre. Vous savez que je note tout. Hein.
Vous notez. Hein.
Attention, victoire de la Pologne pour Pierre. 3-1 pour le président de la République. Votre pronostic, Peggy ?
Allez, 2-1.
Pour
la France, hein, évidemment.
Pour la France, comme Antoine Martin.
Et vous ?
Je vais faire comme vous, tiens.
D'accord.
Ça, si vous si jamais on a trop, tort, hein. on est comme tout le monde. Allez, Marc est aussi avec nous.
Bonjour, Marc.
Dans l'Ariège. Bonjour, Marc.
Bonjour, toute la famille d'RMC. Bonjour, Mathieu. Bonjour, l'équipe. Et surtout, le standardiste, très formidable.
Et vous connaissez tout le monde, Marc, auditeur fidèle.
Je vous écoute depuis un bout de temps, quand même, RMC, vu que je suis réveillé tous les matins de bonne heure. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir.
Vous avez un petit prono pour ce soir ou pas?
Ah, 2-1, je suis Peggy, ah. Votre analyse, ben oui, 2-1.
Allez, 2-1,
forcément. Okay. Allez.
Très bien.
Et en parlant de pronostic, est-ce que vous avez suivi le rapport du quintet d'hier, Mathieu?
Ah oui, et numéro 9?
Eh oui, il est arrivé premier, c'était pour savoir si vous aviez fait bonne fortune en écoutant les
Maris. Alors, vous savez quoi, Marc?
Non.
J'ai écouté attentivement ce que nous disait Mathieu Zaccanini hier. Je lui ai promis de parier. Parce que c'était le prix de Saint-Georges-de-Didonne et que j'adore cette ville.
Et vous ne l'avez pas fait?
Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé?
Il a gagné.
Eh ben, il a gagné, sauf que...
Vous n'avez pas parié.
J'ai oublié.
Et ben voilà.
Oh.
Et ben voilà.
Et voilà.
Et alors vous, Marc, vous avez parié?
Non, je n'ai pas parié. Vraiment, je n'ai pas parié, malheureusement.
Non mais, comme quoi, c'est quand même très régulier pour être souligné.
Juste.
Nous sommes d'accord. La Dream Team des courses RMC est vraiment de bons conseils.
Oui, tout à fait.
Encore la preuve hier avec ce numéro 9, Eline.
Il avait donné le 9 et en cas de non partant, le 11, qui a fini dernier. Il a donné le premier et le dernier.
Exactement. Et on verra ce qu'il nous conseille parce qu'on est encore à Vincennes, là, sur les hippodromes aujourd'hui. C'est encore une course à Vincennes, une course encore plus importante en ce dimanche.
Oui.
Marc, merci d'être avec nous.
Eh bien, avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne matinée.
Oui, merci, vous aussi.
Ça va aller. Tant que vous êtes là.
Tout le monde suive les paris RMC.
Tout va bien se passer. Les paris RMC, les courses RMC, c'est vos rendez-vous, effectivement, d'ici 6h30. Salut, Marc. Un très bon dimanche.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Allez, dans un instant.
Celui qui restera à jamais l'idole des Français.
Je serai là.
Johnny Hallyday, évidemment. Et je serai là, tiens, ça c'est pour Émilie, qui nous écrit sur l'appli RMC et dont c'est la chanson préférée. Vos chansons préférées, n'hésitez pas à nous les demander, on les diffusera à l'antenne. Ça fait 5 ans, effectivement, c'était le 5 décembre 2017, sa disparition. Que retenez-vous de ce taulier, de cette idole des Français? On va voir que ses plus grands fans ne l'ont pas oublié, très loin de là. Et vous allez voir que certains vont commémorer... Eh bien, ce triste anniversaire, d'une façon plus que particulière, le reportage de la rédaction d'RMC dans une petite minute.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Soyez les bienvenus, 6h13 sur RMC. Il était un peu moins de 3h du matin dans la nuit du 5 décembre 2017. Laetitia Hallyday envoie un bref communiqué aux rédactions. « J'écris ces mots sans y croire », dit-elle, et pourtant c'est bien cela. « Mon homme n'est plus, Johnny Hallyday est parti, Jean-Philippe Smet est décédé. » Et l'émotion est encore vive 5 ans après, partout en France. La mort du taulier est gravée dans la mémoire de ses plus grands fans qui s'apprêtent à commémorer leur idole. Une messe est prévue la semaine prochaine dans l'église de la Madeleine à Paris, là où ses obsèques avaient eu lieu en 2017. Certains vont aussi lui rendre hommage d'une façon un peu plus personnelle. Écoutez ce reportage, reportage de la rédaction d'RMC, signé ce matin Kevin Gasser.
Bienvenue chez Alain Lecoq.
Mon surnom, pour info, c'est Cococ.
Jaquette en cuir, pantoufles floquées, Hallyday au pied. Cet ancien restaurateur de 63 ans est à la retraite depuis mercredi. Sa passion pour Johnny, elle, continue.
Il faisait ce qu'il voulait. C'est un saltimbanque, c'est un monsieur, c'était le patron, c'était le boss.
La rockstar est partout sur les murs et les meubles du bureau du domicile familial. Johnny s'y produit même encore en modèle réduit sur la scène de l'Olympia ou aux côtés des vieilles canailles.
C'est un ami à moi qui me les fait et vous n'en trouverez jamais sur le marché. C'est une maquette de l'Olympia où Johnny a joué dans les premières années de sa vie.
C'est aussi dans les premières années de sa vie qu'Alain Lecoq, élevé par une famille d'accueil, découvre le rock'n'roll.
Souvenir, souvenir.
Et d'autres morceaux plus mélancoliques.
Alors un titre mythique qui me colle à la peau, c'est Noël interdit.
Noël.
Il chante le Noël qu'on aurait toujours voulu avoir.
Alors quand son idole est décédée, Cocoq a créé le Lorada Bike, un club qui rassemble ses deux passions, Johnny et la moto, avec lequel il organise régulièrement des soirées-concerts et des moments de partage dans une pièce aménagée au-dessus de son garage.
Là, c'est mon petit coin de recueillement où quand je suis avec mes amis ou autres, backers, on vient, on discute, on boit un petit verre. Et c'est un lieu qui est un peu mythique pour moi. Où là, j'ai toutes mes collections de disques, des photos de Johnny un peu partout.
Sans compter sa plus belle pièce dans son garage, une Harley Davidson qui a appartenu à Johnny Hallyday.
Qu'est-ce qui manque ? Sa présence, ça c'est sûr. On se dit toujours, mais pourquoi il n'est plus là ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Alors on a plus que sa carrière qu'on écoute régulièrement, les vidéos, les cassettes. Et bon, quand on regarde, on est replongé dedans, puis on y est, quoi. On est dedans.
L'anniversaire des 5 ans de la disparition de son idole, Alain le redoute.
Johnny Hallyday, c'est de la légende. Jean-Philippe Smet, il est décédé. Mais pour moi, Johnny Hallyday existe toujours et existera toujours dans mon cœur.
Alain se rendra à la cathédrale Sainte-Croix à Orléans vendredi, où une messe est organisée en hommage à Johnny.
Et oui, 5 ans déjà. Merci beaucoup, Kevin Gasset.
Et vous, alors, quel souvenir gardez-vous de Johnny ? Est-ce qu'il fait encore partie de votre vie ? Pourquoi ? On a tous un souvenir associé à l'une de ses chansons. Venez nous le raconter ce matin au 32-16.
Philippe est avec nous. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Philippe.
Bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes dans l'Aude, Philippe, fan devant l'éternel de Johnny Hallyday.
Et je suis né dedans par mon papa, qui est un grand fan.
Oui.
J'ai fait mon premier concert, j'avais 6 ans, au Palais de Paris, en 79.
Oula.
Et pour moi, son décès, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Là, d'en parler, j'ai la voix qui tremble.
Oui, j'entends, Philippe, 5 ans après.
Ah oui, mais il y a des chansons qui... Bon, en plus, mon papa est malade maintenant, donc des chansons qui me font rappeler à lui.
Oui.
Et c'est vrai que pour moi, Johnny, c'est... J'écoute que ça, quoi, au grand dan de ma famille qui aimerait que j'écoute autre chose. Mais oui. Dès que j'ai la possibilité, c'est Johnny, Johnny et Johnny.
Mais oui, mais quand on est fan, Philippe, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas faire autrement. Non. Ça fait partie de votre identité, c'est votre famille.
C'est tout à fait ça. C'est une personne de notre famille qui a disparu il y a 5 ans. Et ça, c'est toujours aussi douloureux pour moi.
Et vous connaissez tous les morceaux par cœur ?
Je ne vais pas dire tous, mais j'en connais une... Très bonne partie.
Et votre préféré ou un album préféré ?
Alors, l'album préféré, mais que j'ai du mal à écouter, c'est 100% par rapport à la chanson de 100% pour mon papa.
Oui.
Et sinon, ma chanson préférée, c'est Quand revient la nuit quand il était à l'armée.
Quand revient la nuit ?
Et non pas revient la nuit.
Quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie. Je pense à toi.
Pourquoi celle-ci précisément, Philippe ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah déjà, moi, quand je suis parti à l'armée, et je sais pas, ça a toujours été une chanson qui m'a beaucoup ému dans les paroles et dans la douceur de son texte.
Et vous vous souvenez combien de fois vous l'avez vu sur scène ? Parce que la première fois, vous aviez 6 ans, donc j'imagine que vous êtes allé régulièrement ?
Oui, je dirais que... si je ne m'abuse, donc 79, 84, 87 ou 88, 90, 92, 93, 95, 98, 2000, et après ayant déménagé, n'étant plus en région parisienne, je n'ai pas pu y retourner. Voilà. Mon dernier concert, c'était 2003 au Parc des Princes pour son anniversaire.
Bah, 10 fois quand même, hein, j'ai compté du coup. Hein.
Oui, tout à fait, oui. J'en ai même fait un à Villepinte, il était passé à Villepinte en plus.
Vous avez prévu
donc,
quelque chose...
Donc j'avais fait le concert de Bercy et le concert de Villepinte à un mois d'écart, quoi.
Vous avez prévu quelque chose, là, pour commémorer ces 5 ans, Philippe ?
Malheureusement, non, parce que je suis un peu loin et puis...
Bien sûr.
C'est pas facile avec la famille, mais mon cœur y sera, c'est clair.
Et vous allez écouter du Johnny toute la journée, j'imagine ?
Certainement, oui.
Embrassez bien votre papa pour nous, Philippe. Merci d'avoir partagé tous ces souvenirs sur RMC ce matin.
Grand merci à vous.
Merci à vous. Tiens, pour Monique, celle-ci.
Les portes du pénitencier.
Monique qui aimait aussi le mangeur de disques et l'envie, allez-y. Vos chansons qui vous rappellent, qui vous relient à Johnny Hallyday, on va les écouter ce matin. Faites comme Philippe, composez le 32-16. 5 ans déjà, Johnny Hallyday. Il est 6h19.
À suivre dans la matinale week-end.
Comment rester au chaud en cette journée la plus froide de la semaine?
Bah, col roulé et doudoune, bien sûr. On commence à savoir. Mais avec un petit truc en plus, un système chauffant à l'intérieur. Anthony Morel va tout nous expliquer, c'est déjà demain dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
6h20 sur RMC, l'événement aujourd'hui, c'est à 16h. France-Pologne à vivre en direct sur RMC. Votre pronostic, vous continuez. Et puis sur qui faut-il miser? On peut compter sur Coach Courbis et Jean-Christophe Drouet, les paris RMC, dans deux minutes. Mais d'abord, ça caille, ça meule, ça pique. C'est la journée la plus froide de la semaine.
RMC, la matinale week-end.
C'est déjà demain.
Alors comment rester bien au chaud quand les températures deviennent négatives?
Figurez-vous qu'Anthony Morel nous a dégoté quelques innovations pour braver le froid. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Vous nous avez trouvé des vêtements intelligents qui se réchauffent quand la température commence à baisser?
Oui, ce qu'on appelle des vêtements thermorégulateurs. Alors qui sous leur forme la plus simple existent depuis longtemps. Vous savez, les gants chauffants, les parkas chauffantes, on trouve ça dans le commerce depuis un moment. Mais ceux-là, non, ils vont un cran plus loin. Faut imaginer un pull, un sous-pull, des semelles. Et à chaque fois, le principe est le même. Vous avez des petites résistances à l'intérieur du textile qui vont réchauffer certaines zones du corps en fonction de la température extérieure et de mon niveau de frilosité. Ça va se faire de manière automatique, en temps réel. C'est-à-dire que la température s'adapte à mon corps. Ils vont devenir plus chauds quand mon corps refroidit. En fait, à l'intérieur du vêtement, il y a des petits capteurs électroniques qui analysent ma température corporelle. Et lorsqu'elle tombe à un certain niveau, eh bien, les résistances s'activent au niveau du torse, du ventre.
On peut régler la température ou pas?
Alors, on peut aussi le faire, absolument. On peut le faire via son smartphone. On peut choisir la température, omoplate gauche, omoplate droite. Si vous êtes plus frileux d'un pied plutôt que de l'autre, pourquoi pas. Tout est modulable, tout est paramétrable. Non, mais c'est quand même intéressant parce que en fonction de mon âge, de mon sexe, de mon poids, de mon activité physique, c'est-à-dire que le vêtement va comprendre, par exemple, que je suis en train de courir. Là, il n'y a plus besoin de chauffer. Mais en revanche, au début du footing, vous savez, les 5 premières minutes, là, quand ça caille vraiment, qu'on n'est pas bien, et ben là, c'est très intéressant d'avoir des vêtements chauffants. Et puis, ça peut être aussi intéressant, je pense, pour les professionnels, hein, ceux qui travaillent dans les chambres froides, ceux qui travaillent sur les tarmacs d'aéroports, les soldats aussi, pourquoi pas. Beaucoup d'innovations dans ce domaine et notamment une start-up française qui s'appelle Climate, avec un 8 à la fin.
C'est lavable ou pas? Je peux mettre
c'est lavable, absolument, c'est lavable. Alors certains sont équipés d'un petit kit électronique qu'il faut retirer avant de les laver, mais sinon, bien sûr, ça passe à la machine.
Est-ce qu'on peut aussi parler de ce super textile, Anthony Morel? Plus la température baisse, plus le tissu devient épais.
Alors j'adore le concept. C'est une veste dont la matière devient plus épaisse et se transforme en doudoune quand les températures avoisinent les 0 degrés. Ça, c'est un laboratoire de recherche américain qui a mis au point ce textile qui change de forme en fonction de la température. Quand il fait froid, des poches d'air se créent à l'intérieur du vêtement qui vont piéger la chaleur. Et quand la température extérieure remonte, eh bien les poches se dégonflent et le tissu redevient fin et léger. Donc avec un même vêtement, on peut être à l'aise quelle que soit la météo. Ça permet aussi de faire des économies de chauffage à la maison. On porte ce vêtement et on va pouvoir se réchauffer automatiquement.
Et puis un dernier mot avec ces gants qui peuvent servir de téléphone.
Oui, c'était le petit point bonus, le petit point style. Parce qu'il faut assumer dans la rue. Moi, je les ai testés. C'est des gants qui font littéralement téléphone. Donc ils sont reliés au smartphone qui est dans votre poche. Vous gestez du téléphone.
Ah oui, très bien.
Vous avez
avec le pouce et l'auriculaire.
Exactement. Vous avez un petit micro pour parler et un petit haut-parleur. Et en fait, vous allez pouvoir parler comme si vous étiez au téléphone normalement. Bon, il faut assumer ce look un petit peu particulier dans la rue, mais ce sera peut-être à la mode d'ici 5 ou 10 ans.
Oui, bien sûr. Oui, on peut toujours rêver. Je vous le laisse. Merci, Anthony. 6h24.
La matinale week-end.
Les paris RMC.
Tous les yeux en bleu, blanc, rouge, rivés vers le Qatar. Aujourd'hui, Jean-Christophe Drouet, Roland Courbis, bonjour.
Salut Mathieu, bon dimanche.
Salut Mathieu et salut à tous.
Alors, deux autres huitièmes de finale aujourd'hui à 16h, évidemment, ce France-Pologne. 20h, Angleterre-Sénégal. Ça, ce sera pour l'adversaire soit de la France, soit de la Pologne. Coach, tu vas nous parler de nos bleus. Les cotes 1,28, la victoire des bleus. 5,50, le match nul. 12,50, la victoire de la Pologne. Je parle évidemment à l'issue du temps réglementaire. Ensuite, on peut parier aussi sur les prolongations. Les tirs au but. On joue quoi pour le pari sûr, on va dire, de cette rencontre?
Déjà, je pense que par sympathie, par respect, par ce que tu veux, on remercie le hasard de nous avoir donné la Pologne, même si on sait qu'en football, il y a des surprises, et il y a des surprises dans cette Coupe du Monde, mais en fait, ça ne fait rien. Je trouve cette équipe de Pologne très, très moyenne. Donc, je m'imagine la France, évidemment, prendre ce match au sérieux, très au sérieux, et gagner les demi-temps. Donc France qui gagne en première mi-temps et France qui gagne en deuxième mi-temps.
La France qui gagne les demi-temps, ça c'est une cote à 1,74. Donc on élève évidemment cette cote de 1,28 pour la victoire sèche de la France. Si vous voulez le mettre dans un combiné, ça peut être intéressant. Ton pari de folie maintenant sur cette rencontre?
L'ami Mbappé, dans le sens que c'est devenu une habitude pour nous, presque une tradition. Donc au lieu de mettre Mbappé qui marque, l'équipe de France qui gagne, non, je mettrai l'équipe de France qui gagne, mais doublé d'Mbappé.
Alors si on garde ton pari sûr, la France qui gagne les demi-temps, et que l'on combine ça, on rajoute le doublé d'Mbappé, ça fait une cote à 6, 10 euros, 60 euros.
C'est bien, écoute, ça nous fera passer un bon week-end.
Et on sera en quart de finale. Allez les Bleus, évidemment.
Allez les Bleus, les paris RMC, on vous retrouve à midi, messieurs. Tiens, si vous préférez les hippodromes, écoutez bien ce que nous a dit Marc, hein. Il ne se trompe quasiment jamais, la Dream Team des courses RMC. Bonjour Mathieu Zaccanini.
Bonjour Mathieu.
Bon, on continue le week-end à Vincennes. Mais alors, aujourd'hui, avec cette finale, 15e étape, finale du Grand National du Trot.
Tout à fait, c'est exactement ça, c'est la 15e étape du Grand National du Trot. C'est la finale qui se dispute chaque année sur l'hipporome de Vincennes. Et donc il y a eu, on appelle ça le Tour de France des trotteurs, pour information Mathieu. Il y a eu 14 étapes précédentes sur différents hippodromes français. Là on fait la finale à Vincennes. Pour le moment, pour information, c'est Herdelios qui est en tête. Et Herdelios qui va prendre part à cette compétition, ça sera le numéro 8. Il peut-être remporter ce Tour de France des trotteurs. En tout cas c'est une compétition qui est disputée sur la distance des 2850 mètres avec deux poteaux de départ. Ils sont nombreux, ils sont 18 à prendre part à cette épreuve, et c'est une finale quand même qui est assez ouverte, avec beaucoup de possibilités, je pense.
Bon, ça promet une très belle course, en tout cas, telle que vous nous la décrivez. Votre dernier bruit, Mathieu, le dernier bruit de la Dream Team des courses RMC?
Notre dernier bruit, on va faire confiance à un cheval qui s'élance au premier poteau, avantagé de 25 mètres par rapport à différents concurrents. C'est le numéro 2, Goélandophore, qui nous a laissé un peu sur notre faim le 23 novembre dernier sur l'hipporome de Rouen, puisqu'il ne s'est classé que 8e. Mais par contre, c'est un cheval avec un énorme moteur qui est capable d'aller très très loin dans un parcours. Il est très confirmé à ce niveau. Et l'entraînement de Christian Bigeon est en grande forme également. Il a notamment remporté le prix de Bretagne avec Hip Hop Au Fort. Donc on pense que là, normalement, avec un bon parcours, Goélandophore, le numéro 2, peut viser la victoire.
Ouais, Goélandophore que vous nous conseillez souvent et généralement avec beaucoup de réussite. Si jamais il part pas ce numéro 2.
Et bien, si jamais il ne part pas, on va faire confiance au numéro 3, Gently de Muse. Gently de Muse qui est entraîné par le crack entraîneur, Jean-Michel Bazière, le patron. C'est un excellent cheval qui est très confirmé à ce niveau de compétition, Gently de Muse, qui se plaît à Vincennes. Et on pense qu'à l'issue d'un bon parcours, il doit être en mesure également de prétendre au moins une place dans les 5 premiers, ce numéro 3, Gently de Muse.
Et bien merci beaucoup Mathieu. On vous écoute attentivement, comme tous les week-ends, les pronostics à retrouver sur rmc.fr. La météo, les infos et surtout le sport. Ce matin, c'est dans 2 minutes. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu. Antoine Martin, Stéphane Genest, bonjour.
Bonjour à tous. Mathieu.
Les trois grands titres de ce dimanche.
Dans moins de 10 heures, les Bleus affrontent la Pologne en 8e de finale du mondial, direction Doha, dans ce journal pour les dernières infos compo de Didier Deschamps.
Opération service après-vente pour Emmanuel Macron après les annonces de coupure d'électricité. Pas de panique, affirme le chef de l'État. Et la bamboche, c'est fini. Danser dans un bar jusqu'à 5 heures du matin est désormais interdit à Dijon.
RMC. Coupe du monde 2022.
Et à la une, c'est donc cette équipe de France qui affronte la Pologne à 16h en 8e de finale.
Ah oui, loin derrière le match des remplaçants perdu face aux Tunisiens. Quelle équipe Didier Deschamps va-t-il aligner pour ce premier match à élimination directe dans cette Coupe du Monde? On va tout de suite poser la question à Loïc Braillet, notre envoyé spécial à Doha, au plus près des Bleus. Bonjour Loïc, vers quel 11 probable on se dirige pour affronter la Pologne?
Bonjour, Didier Deschamps va revenir aux fondamentaux qui ont fonctionné en début de compétition, notamment face au Danemark lors du deuxième match de poule, puisqu'on devrait retrouver le même 11 que face aux Danois. La cheville gauche de Théo Hernandez, qui souffrait d'une légère contusion ces dernières heures, va bien. Varane va poursuivre sa montée en régime en défense centrale, et les quatre joueurs à vocation offensive seront là pour trouver la clé du coffre-fort polonais. On retrouvera donc le capitaine Hugo Lloris dans les buts, 142e sélection ce soir, record de Lilian Thuram égalé. Une défense à 4 de droite à gauche, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, 3 milieux, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, et en attaque le trio Dembélé, Giroud et Kylian Mbappé.
Merci beaucoup Loïc. On vous retrouve dans une heure dans le journal des sports. La température monte, on a hâte de voir ce match. Peggy, Mathieu, Stéphane qui a abandonné son chapeau bleu, blanc, rouge.
Oh oui, mais ça reste dans le cœur.
Allez, de moi, hein.
Parlons un peu de nos adversaires, les Polonais. Équipe peu séduisante dans le jeu depuis le début du mondial.
Oui, deux rencontres sans marquer. Le match le plus ennuyeux du mondial décerné au Mexique-Pologne. 0-0. Le sélectionneur polonais capitalise sur une bonne défense. Quitte à déplaire, il fait avec les moyens du bord. Je cite, Didier Deschamps et ses hommes vont faire face à des Polonais très défensifs.
Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Et elle défend très bien et elle aime ça, même elle adore ça. Mais c'est pas la limiter qu'à ça. Mes joueurs savent que dans la négation, il y a du répondant. Ils ont aussi beaucoup d'arguments offensifs pour créer des problèmes à l'adversaire.
Rendez-vous dès 15h pour l'avant-match dans l'intégrale Coupe du Monde sur RMC, la radio officielle du Mondial. Avant-match avec Jean-Louis Tour et sa bande. Jeannot Rességuier évidemment aux commentaires de ce France-Pologne. Coup d'envoi 16h.
Et puis on connaît déjà depuis hier les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale.
Pas de surprise, les Pays-Bas ont battu les Américains 3-1. L'Argentine a souffert en fin de match mais est venue à bout de l'Australie 2-1. Pas la peine de vous faire un dessin sur celui qui a décanté la rencontre. Lionel Messi, pour sa 1000e en carrière, le joueur du PSG a inscrit son premier but en match à élimination directe lors d'un mondial.
On est très heureux d'avoir fait un pas de plus vers notre objectif. On s'est compliqué la tâche sur la fin, en souffrant un peu, mais c'est la Coupe du Monde. Ce sont des sensations incroyables de partager ces moments magnifiques de joie avec nos supporters. On mesure l'effort que cela représente pour eux d'être ici. Cette passion, cette énergie, cette joie qu'ils mettent dans nos matchs, on les en remercie vraiment parce que c'est incroyable.
La Pulga dépasse Maradona au nombre de buts marqués dans une Coupe du Monde. Pour l'Albi Céleste, il lui en reste plus qu'un à inscrire pour dépasser Batistuta, l'égaler. Et en parlant de légende du foot, des nouvelles peu rassurantes sur l'état de santé du roi Pelé. Le Brésilien de 82 ans, admis à l'hôpital mardi à Sao Paulo, aurait été admis en soins palliatifs. Son traitement contre son cancer du côlon ne fonctionne plus. Beaucoup de messages de soutien, dont celui de Kylian Mbappé, prière pour le roi.
Merci beaucoup Antoine Martin. Je note vos pronos ce matin. De Stéphane, l'un qui nous dit 3-2, l'autre 1-0. Jamel, 3-0. Qu'est-ce que ça va donner à 16h ou plutôt à 18h au coup de sifflet final? N'hésitez pas vos messages sur l'appli RMC. 6h34. Stéphane Genest, on vous en parlait dès hier, des coupures de courant dans les écoles, notamment dès janvier. Eh bien, Emmanuel Macron tente de rassurer.
Et que ce soit dans les colonnes du Parisien ce matin, où il livre une interview fleuve, ou encore sur TF1 hier midi, le président de la République veut se montrer à la manœuvre sur le sujet, mais surtout pas alarmiste.
Pas de panique, ça sert à rien. Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté aujourd'hui et beaucoup de force. Si tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété, c'est-à-dire réduire d'environ 10% par rapport à nos consommations habituelles, et à côté de ça, si EDF continue le travail, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre et un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous.
Et dans ce contexte de coupure probable, potentiel de courant, l'heure est donc aux efforts, comme le dit Emmanuel Macron, et donc aux économies d'énergie. Mais sur ce sujet précisément, ce n'est pas tout à fait ça. Reportage Victor Joannin.
Les bras chargés de sacs, Sidney déambule dans une rue commerçante. Il a trouvé des cadeaux de Noël, mais des efforts de sobriété, aucun.
Je viens de sortir là du centre commercial. C'est assez clair, c'est que les chauffages, ils sont toujours à fond et que les portes, elles sont grandes ouvertes. Vous voyez, je porte une veste, je porte une écharpe. J'ai pas besoin qu'il fasse 23, 24 degrés à l'intérieur du magasin. Je préfère qu'il fasse 19-20 et je ferai mes cadeaux de toute manière.
Les enseignes lumineuses et les vitrines sont bien sûr allumées à grands coups de kilowatts et Kylian regrette que ça continue même après l'heure de fermeture.
Quand on marche à 23h et qu'on voit les vitrines allumées, c'est pas normal quoi.
Même goût amer pour Pauline. Dans le cabinet médical où elle travaille, elle a le sentiment que la prise de conscience n'a pas encore eu lieu.
On est bien chauffé, moi j'ai même trop chaud donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est fait.
Le porte-parole de l'association nationale des DRH, Benoît Serre, explique que beaucoup d'entreprises ont des marges de manœuvre limitée.
Aujourd'hui, on a un certain nombre de bâtiments qui n'ont pas forcément été construits dans une logique d'économie d'énergie et qu'on ne peut pas accuser les entreprises qui les occupent d'être responsables de cela.
Pour le moment, c'est surtout l'industrie qui fait des économies d'électricité avec une baisse de 15%, des efforts contraints par l'explosion du prix de l'énergie.
En bref, un homme de 25 ans tué par balle hier soir en pleine rue à Bondy en Seine-Saint-Denis. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte.
Et puis c'était le dernier jour du disco à Dijon.
Comme le titre de Juliette Armanet. Mathieu, dernier pas de danse possible dans les bars de nuit de la ville bourguignonne ouvert jusqu'à 5h. La mairie en limite les horaires, raison invoquée, la multiplication des faits de délinquance dans le centre de la ville. Nathalie Quenders est adjointe au maire de Dijon.
On a pris plusieurs mesures, une police municipale accrue, des arrêtés pour limiter la vente d'alcool à emporter. Et à un moment, on est arrivé au bout du bout. On voit bien que les faits graves se trouvent sur la tranche horaire 3, 4, 5 heures du matin. Des personnes qui ont des comportements un peu prédateurs et qui savent qu'ils peuvent tomber sur des personnes vulnérables qui pourront voler, taper, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu deux faits terribles avec des personnes qui sont dans des états de santé graves et le maire ne veut pas qu'il y ait un mort.
Et réponse de Gérard Godin, le propriétaire du Smart. Le Smart, c'est un bar dansant du centre.
C'est pas nous le problème. Les délinquants, ce ne sont pas nos clients, hein, c'est l'inverse. C'est comme si demain on disait « on en a assez de ces accidents graves sur l'autoroute, on va fermer l'autoroute ». C'est une décision qui va représenter en gros 80% de pertes de notre chiffre d'affaires. Nous, le samedi, on est 17 personnes et je vais en garder 5. Je suis dépité parce que voilà des années que l'on réclame la présence de forces de police sur la place et qu'on n'est pas entendu.
J'ai l'impression qu'on ne supporte plus rien. On ne veut plus de bars de nuit jusqu'à 5 heures du matin à Dijon. On ne veut plus de discothèques dans le centre-ville de Metz. Ça, c'est le maire de Metz qui le réclame. Colère évidemment des professionnels. Le patron de la branche nuit de l'UMI sera avec nous à 8h20 tout à l'heure, Thierry Fontaine. Peut-être que vous travaillez dans ce milieu ou que vous sortez aussi. C'est encore autorisé de sortir le vendredi et le samedi soir jusqu'à tard dans la nuit. 32-16 si vous souhaitez réagir ce matin. Allez, pour se mettre un peu dans l'ambiance, ça c'est pour Michel. Parce que la musique ce matin, évidemment, c'est Johnny, 5 ans qu'il a disparu. Les chansons que vous préférez, celles qui vous rappellent les meilleurs souvenirs, qui vous relient au taulier, à l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, disparu le 5 décembre 2017. Pour Michel, c'est donc Elle est terrible. Et puis, on avait...
On a Françoise également, alors elle, c'est Marie.
Oh Marie, si je pouvais tenter que l'on me fait. Si tu savais.
C'est le disque et il est rayé, on l'a trop écouté.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Ben oui, c'est ça.
Ça arrive. Hein.
Le vinyle, ben oui.
Eh ben, dites-moi, je savais pas qu'on avait encore, vous savez, ouais, les vieilles platines.
Ah, ben ça revient de plus en plus.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça revient à la mode.
C'est vrai.
Sylvain est avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Ça va ce matin, Sylvain ?
Ben ça va bien, et vous ?
Ben oui, ça vous fait plaisir d'écouter, de réécouter un peu de Johnny ?
Mais je vous venez de dire ça fait 5 ans, j'étais tellement surpris.
C'est dingue, hein.
Ça fait déjà 5 ans.
C'est exactement ce qu'on disait ce matin, ça fait déjà 5 ans. On a l'impression,
c'est incroyable.
On a l'impression qu'une vie est passée depuis, et en même temps que
c'était hier.
Et que c'était hier, ouais. Sylvain, c'est d'une banalité terrible.
Mon bébé a 2 ans et demi,
ouais.
Et comme vous dites, pour moi c'est une vie qui est passée, qui est en train de passer, et Johnny ça fait 5 ans qu'il est plus là, non vraiment c'est fou.
Mais parce qu'il fait partie de nous, hein.
Ah oui.
À jamais.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait écouté beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, tout le monde connaît, il est là, quoi.
Et ce qui est assez incroyable, c'est que, comme vous dites, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, on connaît toutes les chansons quasiment. Quand il fait un concert, tout le monde connaît toutes ses chansons, tellement ça fait partie de la culture et de notre patrimoine, quelque part.
Mais c'est tellement ça, c'est vrai.
Sylvain, quel est le programme du jour pour vous ?
Alors le programme du jour, ben là je me dirige vers mon petit marché du dimanche.
Oui.
Du dimanche matin, donc je vais vendre quelques fruits à mes clients de ce village.
Oui.
Sous la pluie certainement.
Il y a des dimanches moins sympa que d'autres. Hein.
Alors le petit miracle, c'est que depuis que je vous ai en ligne, il pleut plus.
Ah bah voilà.
Reste en ligne avec nous.
C'est déjà ça. Mais j'imagine qu'il fait pas chaud. Hein.
Pas.
J'imagine que c'est pas chaud. Ouais. Comment vous faites pour vous protéger du froid et même votre marchandise ?
Ah ben moi je m'habille.
Ouais, tout simplement.
Oui. Non, ça a l'air de rien, mais ça fait un petit moment que je fais ce métier. Et bon, on met les habits qui vont bien, puis je suis pas frileux. Et puis voilà. Et puis après les fruits, ben ils sont sous des parasols avec des gouttières. Ça fait un joli stand avec des parasols jolis, des lumières. J'ai mis des lumières de Noël. Bon, mais voilà, on improvise, et puis c'est un métier qu'on aime, quoi, donc.
Et les fruits de saison, en ce moment, ce qui se vend le mieux? Clémentine?
Moi, je vends c'est du kiwi, principalement.
Ah,
du kiwi
oui,
vert,
déjà.
Du kiwi jaune.
D'accord.
Et d'excellentes pommes et des très belles poires aussi.
Eh ben ça, c'est un excellent cocktail pour un petit déjeuner vitaminé.
Ah oui. Exactement.
Merci Sylvain. Oui.
Bon courage.
Avec plaisir l'équipe.
Merci. Très belle journée.
Très bon dimanche à l'écoute d'RMC.
Merci, au revoir.
Et on ne vous lâche pas Sylvain, à condition que vous continuez de nous écouter. Promis, la pluie va s'arrêter. Ok.
Vous faites des promesses, Mathieu, vous allez loin.
Salut Sylvain, à bientôt. Mais c'est des promesses, ce sont les vôtres.
Ah ben non, vous avez dit que la pluie va s'arrêter.
C'est vous la responsable.
Oui, mais moi, j'ai pas dit que la pluie allait s'arrêter.
Allez, dans un instant.
Le cri d'alarme du monde du spectacle sur RMC.
Oui, les théâtres, les opéras, les cabarets, des dizaines de petites salles prises à la gorge avec l'explosion des prix de l'énergie. Les factures ont été multipliées par 4. Certaines vont devoir fermer, baisser le rideau définitivement. Dans le courant de cet hiver, on va regarder ce qu'il en est précisément. Enquête RMC dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 6h43 sur RMC. Il y a d'abord eu le Covid, la difficulté à faire revenir le public dans les salles. Ensuite, et maintenant l'explosion des factures d'énergie qui pourrait bien être le coup de grâce.
L'enquête RMC.
Bonjour Martin Cadoret.
Bonjour Mathieu.
Le secteur des salles de spectacle lance un appel au secours ce matin sur RMC parce que des dizaines de salles sont menacées de fermeture définitive. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup ne trouvent pas la solution face à la flambée des prix de l'énergie.
Oui, chaque salle de spectacle cherche comment absorber ses charges qui explosent. Au théâtre du Chêne Noir à Avignon, par exemple, la facture a été multipliée par 4, de 28 000 euros à 112 000 euros. Là-bas, on accueille des pièces qui tournent et la compagnie maison en crée aussi sur place. Il va falloir s'adapter, explique le directeur Julien Gélas.
Je suis obligé de faire un plan d'urgence d'économie d'énergie à tous les niveaux, mais ça suppose par exemple, là on a une création que je vais faire sur 2 mois, on va en risque de répéter sans chauffage. Et j'ai prévenu tout le monde qu'il allait falloir qu'on mette des manteaux, mais aussi une vraie question se pose sur l'annulation de certains spectacles. Ce sont des coûts importants, particulièrement en hiver. Il pourrait y avoir 60% des spectacles qui vont être annulés. C'est plusieurs centaines de personnes qui devaient venir travailler au théâtre du Chêne Noir qui vont pas pouvoir venir travailler pour que nous puissions survivre, c'est ça.
Autre exemple, à la Filature à Mulhouse qui accueille une scène nationale de théâtre mais aussi l'Opéra National du Rhin et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. Donc beaucoup de monde qui compte sur ce lieu alors que la facture a été multipliée par 2. Benoît André, le directeur de la Filature.
On va essayer de fermer la Filature le plus souvent possible cet hiver. Dès qu'il n'y a pas d'activité, on va la fermer de manière à ne pas chauffer le bâtiment pour rien. Probablement à l'automne prochain, on va être obligé de fermer tout le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024. On va essayer surtout de ne pas toucher à la programmation déjà annoncée. On est en reconquête de public après la crise Covid. Et donc, il eût été vraiment dommageable d'annuler à nouveau des spectacles comme on l'a fait pendant 2 ans en raison de la crise sanitaire.
Et augmenter le prix des places, c'est envisageable ?
Pas vraiment Mathieu, on m'a beaucoup répondu qu'avec l'inflation ce n'était pas le moment d'en rajouter. Par contre, quelques salles ont fait le choix d'augmenter un petit peu les prix au bar, comme le Paloma à Nîmes, une salle de concert. Là-bas, ça sera plus 1 euro sur l'alcool et plus 50 centimes sur les boissons sans alcool.
Martin, l'État a quand même mis des aides en place, un guichet simplifié, un bouclier tarifaire pour les PME. Les salles de spectacle peuvent en bénéficier, non ?
Alors théoriquement oui, il faut que la facture représente 3% du chiffre d'affaires 2021 des salles. Mais le spectacle vivant, c'est une économie spécifique, explique Boris Collin de la Fédération des lieux de musiques actuelles.
Dans notre secteur à nous, ce pourcentage reste modeste. Et donc, pour l'instant, en tout cas, nous exclut un peu du dispositif qui existe. Je pense qu'il faut que l'État adapte son dispositif de soutien et qu'il comprenne que même si en pourcentage, c'est pas important, il n'empêche qu'une charge qui n'était pas prévue, encore une fois, de dizaines de milliers d'euros, il faut pouvoir l'assumer. Comme en plus, le contexte de reprise d'activité, il est quand même pas génial. Depuis qu'on peut reprendre les concerts, le public est quand même pas exactement au rendez-vous comme on le souhaiterait.
Pas de dispositif général pour l'instant, mais quelques collectivités consentent tout de même à aider au cas par cas. C'est le cas avec la Filature dont je parlais un peu plus tôt. La ville de Mulhouse a consenti à prendre en charge une partie de la facture énergétique. Hors micro, une directrice de théâtre me faisait remarquer qu'il était compliqué de demander de nouvelles aides, alors que le secteur a été très aidé pendant la crise Covid. Plusieurs syndicats professionnels du spectacle vivant ont en tout cas adressé une lettre ouverte à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, début novembre, pour lui demander de bloquer les prix de l'énergie comme en Allemagne. Pour l'instant, pas de dispositif supplémentaire du côté de Bercy, mais le cabinet du ministre m'a indiqué qu'une réponse à ce courrier était en cours de rédaction.
Ouais, lettre ouverte que nous publions ce matin sur rmc.fr. C'est là aussi sur rmc.fr qu'on peut retrouver votre enquête. Martin Cadoret, merci beaucoup. Et tout à l'heure à 8h40, le directeur du théâtre de la Vignette à Montpellier, président du syndicat des entreprises artistiques et culturelles, Nicolas Dubourg, sera avec nous en direct pour lancer ce cri d'alarme. Figurez-vous, Imaginez-vous, le premier accès, peut-être le seul dans certaines communes, à la culture, les petits cabarets, les toutes petites salles de théâtre public, devraient fermer, vont devoir fermer à cause de l'explosion des prix de l'énergie. 6h47, partons en Corrèze. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Ça va ce matin, je vous sens souriant. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur?
Le France-Pologne.
Hein. Ah, j'étais sûr. Évidemment, on le vivra en direct avec Jeannot Séguier, qui sera avec nous dès 8h10 tout à l'heure, avec Manu Amoros. On verra la compo, on verra les dernières infos depuis Doha là-bas. Vous avez un prono déjà, Philippe?
Ouais, 3-1.
3-1. Bon, bah, comme ça, c'est très clair. Pourquoi 3-1? Enfin, vous avez déjà réfléchi au truc?
Je pense qu'on a une attaque de feu, hein.
Ouais.
Mbappé. Je pense qu'il va mettre Giroud et puis Dembélé qui est énorme hein, en ce moment. Donc, je pense qu'on peut marquer bien 3 buts. Après, je pense que le scénario va être important. Il faut qu'on marque en premier parce que eux ils vont défendre. Comme ils l'ont fait depuis le début, quoi. Ils défendent beaucoup. Mais si on marque, après, ça reste un match à élimination directe maintenant.
Et oui, c'est le premier match coup près. Et on a des mauvais souvenirs hein, de l'année dernière avec l'Euro.
C'est vrai que l'Euro, c'est un peu compliqué. Mais bon, là, c'est autre chose. Et puis, je pense qu'on a la capacité et l'équipe pour aller au bout. Hein.
Je reviens sur 3-1, Philippe. C'est exactement le même pronostic qu'Emmanuel Macron. Macron dit autre chose. Eh ben voilà, il dit 3-1 avec Mbappé, Giroud, buteur, et le 1 pour la Pologne, but de Lewandowski. Vous dites à peu près la même chose?
Ouais, ça peut être ça, ouais.
Ouais.
De toute façon, je pense que si il marque, il y a de grandes chances que ce soit lui. Hein. Et puis nous, c'est sûr que Mbappé, ouais, je pense qu'il va marquer parce que ça va être, on va marquer grâce à sa vitesse aussi et puis grâce à la qualité de pied de Dembélé. Ouais.
Bon, en tout cas, évidemment, je le redis, on suivra ça sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. L'avant-match dès 15h avec Jean-Louis Tour et tout le monde, Jean Rességuier aux commentaires là-bas. Philippe, bon match à vous tout à l'heure et bonne journée. D'ici là, infirmier libéral, vous êtes en pleine tournée là?
Non, repos aujourd'hui.
Bon, il va profiter bien.
Ouais, je fais un petit coucou à mon collègue qui travaille, à Jérôme.
Ah oui, d'accord, vous avez envoyé le collègue pour être bien reposé pour le match, quoi.
Exactement.
Ah d'accord, j'ai compris.
Ça tombe bien, du coup.
Ouais.
Salut Philippe.
Ouais, bonne journée.
Bonne journée, bon dimanche. Merci d'être à l'écoute d'RMC. Il est 7h10.
RMC, la matinale week-end.
6h51, qu'allons-nous faire? Le programme, il suffit de le demander. Alors, excusez-moi deux secondes. Mais c'est comme au théâtre, vous savez?
Oui, c'est ça.
Je prépare. Allez, dans 20 minutes, est-ce que vous êtes prêts à faire? Il paraît qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui dit que j'ai la voix de Chantal là.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est Pierre-Yves qui dit ça.
Alors, comment ça va? Eh ben oui, bonjour, comment ça va?
Ah oui, vous le faites bien. Hein
ouais, là, pour le coup, c'est facile ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à faire encore plus d'efforts? On peut éviter les coupures cet hiver, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Ça dépend de nous si on fait en sorte de baisser notre consommation d'électricité de 10%. On nous demande encore un effort. Est-ce que vous êtes prêts à faire encore un effort? Vous chauffez moins, allumez moins la télévision, les lumières, faire toutes les petites économies. 32-16, c'est à vous de nous dire et on en débat avec vous à 7h10. D'abord, on se détend.
Les histoires du week-end.
Et ils sont là, les amis. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Roche, Margot Bourdin, Antoine Martin. Allez, parlons de ce 8e de finale avec au programme ce soir Margot, pizza, bière, télé.
Oui, je suis sûre que autour de la table c'est votre trio gagnant pour passer une bonne soirée foot entre copains. Eh bien, figurez-vous que l'engouement pour le mondial se voit dans les chiffres de vente de matériel hi-fi et d'alimentaire. Pas de boycott massif, puisque selon nos confrères du Parisien, les ventes de télé explosent. 300 000 téléviseurs devraient être vendus en France d'ici la fin du mondial, soit une hausse de plus 11% par rapport à l'année dernière. Les ventes de barres de son et de vidéoprojecteurs sont aussi en hausse ces dernières semaines.
Côté boisson, on ne se laisse apparemment pas mourir de soif. Chez Darty, les ventes de tireuses à bière sont multipliées par deux par rapport à l'an passé. Les fabriques à glaçons et les friteuses ne sont pas en reste. Dans la grande distribution, on achète aussi plus de bière et de cidre, plus 45% de ventes, plus 5,4% pour les sodas et les boissons sans alcool. Hausse encore plus marquée pour les chips et les pizzas. Voilà, vous voyez qu'on est sur des menus très équilibrés. Il ne reste plus qu'à chausser les crampons en vrai et aller éliminer tout ça.
Bon appétit si vous êtes au petit-déj, hein. Bah évidemment, racontez-nous un peu les menus là, devant les matchs, parce que j'imagine qu'effectivement on n'est pas sur des raclettes veggie comme concoctées paysans.
Mais c'était très bon la raclette veggie comme vous dites.
Avec du brocoli et du chou-fleur, hein. Sacrilège.
Bien sûr.
Tiens, Peggy Broche, puisque vous êtes là, parlez-nous de ce record de la plus grande salsa.
Record battu au Venezuela. Écoutez bien, plus de 2000 danseurs réunis. Le précédent record était détenu par l'Espagne avec près de 1300 participants. Alors ça s'est passé au Vélodrome de Caracas. C'est le danseur Louis Liamo qui a eu cette initiative et pour ça, il a mobilisé 102 écoles de danse du pays pour réaliser la plus grande Rueda de Casino. Là, vous allez me dire, je vois venir, qu'est-ce que c'est que la Rueda de Casino?
Oh. Eh bien, c'est mais une... attendez, vous avez fait LV2
Espagnol LV1, LV2, ouais, c'est ça. C'est une formation en cercle, en fait, de plusieurs couples, guidés par un leader qui annonce différentes figures que tout le monde connaît, et avec un changement de partenaire après chaque figure. Il a fallu plus de 6 mois de répétition pour 11 minutes de chorégraphie avec plus de 10 000 danseurs. J'aurais adoré y participer.
On change de partenaire après chaque figure.
Exactement.
Ça me plaît.
Ouais. Et vous imaginez, avec 2000 participants, il y a de quoi faire comme partenaire.
Oui,
elle prend 11 minutes, on y va, hein, ça tourne.
Il y en a pour tout le monde, comme vous dites. Alors, de la salsa, on va partir sur une autre ambiance avec Antoine Martin, parce que il y a les fans de Johnny, 5 ans après sa mort, mais il y a aussi les fans de Sheila. Vous nous présentez une fan de Sheila qui collectionne 30 000 objets de la chanteuse.
Alors déjà, on va écouter ce son qui est tout simplement mythique, qui fait plaisir à entendre. Vous avez bien entendu, 30 000 objets. Ce sont nos confrères du journal de Saône-et-Loire qui ont rencontré la fan inconditionnelle de Sheila. Evelyne Simon, 71 ans, présente depuis les débuts de la chanteuse qui fête ses 60 ans de carrière cette année. Et je vois que ça danse dans le studio, c'est parfait.
Forcément.
Et cette frénésie a été très loin, puisque le deuxième prénom de sa fille, c'est Sheila. Elle a appelé son fils Ludovic comme celui de la star des années 60 et 70. Elle a même fait une césarienne pour accoucher de son troisième enfant un vendredi 13, le chiffre préféré de Sheila. En 2002, elle entrait même dans le Guinness des records pour ses 15 000 objets. Aujourd'hui, elle en compte le double, 20 ans plus tard. La Sheila Addict possède même une Smart redécorée de roses et de disques à l'effigie de son idole, la Sheila Mobile. J'ai fait ma vie avec elle. Quand on aime, c'est pour toujours, déclare Evelyne Simon. C'est magnifique. On l'embrasse du côté de la région du Rhône. Si Sheila nous entend, ce serait pas mal une petite rencontre.
Ah bah c'est évidemment, incroyable. Comment elle s'appelle cette femme?
Evelyne Simon.
Evelyne.
Non mais c'est dingue.
Très triste parce qu'elle était en concert à Lyon vendredi soir et elle n'a pas pu s'y rendre parce qu'en ce moment elle a des ennuis de santé.
Et effectivement, lançons un appel. Il faut que Sheila répare tout ça. Non mais attendez, 30 000 objets, ça se récompense.
C'est fou
quand même. Alors, vous savez qu'on aime danser, on aime chanter. Il y a Sheila ce matin, mais je vous le disais, vous l'avez entendu, il y a aussi Johnny. Et ça tombe très bien parce que Johnny et Sheila ont chanté ensemble.
En 76.
Mais regarde un peu ce garçon.
Vous êtes fan de Sheila, vous êtes fan de Johnny, vous êtes fan de...
Votre voix.
De ma voix, de Chantal Latino. Vous êtes fan de l'équipe de France, il y en aura pour...
Tout le monde.
Tout le monde ce matin sur RMC, merci Peggy.
Je vous en prie, commencez vos phrases et je vais les finir si vous voulez.
Restez bien avec nous, peut-être que je tiens jusqu'à 9h. En attendant, le retour de l'info et du sport et de la météo, c'est dans 2 minutes, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.